Après avoir examiné lors de nos deux derniers messages les paroles de notre Seigneur relatives au temps des nations dans lequel nous nous trouvons et à la destruction de Jérusalem et de son temple en l'an 70, je vous invite aujourd'hui à parler d'avenir. Car parler de la parousie, du retour de Jésus, du jour de l'Éternel, en fait ce qu'il nous reste à examiner de notre texte en Matthieu 24, ben c'est tout simplement parler d'avenir. Et plus précisément, de notre avenir. Et celui-ci est lié à une espérance vivante en un monde rendu à sa perfection et totalement réconcilié avec Dieu. Ce monde, ce royaume est déjà vivant en nous au travers de la présence du Saint-Esprit, ça j'espère que nous le savions, mais il est aussi annoncé dans sa pleine réalisation à la fin des temps, à la suite du retour de notre Seigneur. Alors oui, je sais, nous vivons au jour le jour, suivant en cela la maxime enseignée par Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'espérer, de rêver même à ce jour magnifique où enfin le royaume de Dieu sera instauré sur la terre. Ancien et Nouveau Testament en parlent car c'est une promesse de Dieu, un royaume établi sur une nouvelle terre, la remplissant tout entière et sous de nouveaux cieux, avec à sa tête comme roi, puisque c'est bien d'un royaume dont il s'agit, notre Seigneur Jésus. Il y a donc dans toute la Bible une aimantation, c'est un terme un peu particulier peut-être, mais il dit ce qu'il veut dire, donc une attirance irrésistible vers l'avenir. C'est une réalité que le théologien Jürgen Moltmann résume ainsi. Du début à la fin, le christianisme est espérance, perspective et mouvement vers l'avant, et ainsi départ et transformation du présent. Si on veut être pratique par rapport à ce que Moltmann dit, il est tout à fait clair que notre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, au travers d'elle, nous annonçons et nous incarnons au présent un royaume qui est encore à venir. Et en ce sens, je crois qu'on avait j'avais fait deux messages sur le sujet il y a quelques semaines de ça, en ce sens, il est déjà là, même s'il doit encore venir. Commençons par l'Ancien Testament, dans lequel plusieurs espérances sont liées ensemble, comme l'ont fait d'une tresse, hein, ceux qui font parfois des tresses dans leurs cheveux, peut-être pas tout le monde, mais. En tout cas, ma fille, quand elle fait des tresses, elle prend plusieurs parties de ses cheveux, plusieurs cheveux différents, et puis elle les noue ensemble pour former une tresse. Mais cette tresse est donc constituée à la base de plusieurs parties différentes. Les attentes des promesses dans la Bible sont du même ressort, sont du même acabit. Autrement dit, toutes les choses promises par Dieu dans sa parole sont étroitement liées et indissociables les unes des autres, car si l'une ne se réalise pas, ce sont toutes les autres qui sont annoncées qui sont rendues caduques. Je prends un simple exemple pour que les choses soient claires, parce qu'elles ne le sont peut-être pas. Si l'attente et l'espérance d'un sauveur ne s'étaient pas réalisées en la personne de Jésus, on ne pourrait pas parler de l'espérance en la venue future du royaume de Dieu sur la terre, pas plus que de la venue, par exemple, de l'Esprit Saint à la Pentecôte. La première annonce, la première promesse, elle y a d'autres. S'il n'y a pas de première venue, il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas d'effusion de l'Esprit et il n'y a pas de seconde venue non plus. Tout est profondément imbriqué l'un à l'autre. Alors pour nous, cette espérance en la venue du Messie n'en est plus une, puisqu'elle est accomplie, quoi fallait-il y croire par la foi, hein, bien entendu. Mais en revanche, pour ceux qui sont décédés sans avoir vu la venue du Messie, celle-ci était bien une espérance vivifiée par la foi, une attente non encore réalisée à leur époque. C'est ce qui permet à l'apôtre Paul de dire en Romains 8, verset 24, En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il faudra le retour de Jésus, dit Paul, pour que l'espérance finisse sa course, pour qu'on n'ait plus besoin d'espérance, puisque ce que nous attendons sera là. Tant que le royaume de la promesse ne sera pas venu, nous ne vivrons que de l'espérance de le voir venir. Rappelez-vous de la prière de Jean à la fin de l'Apocalypse. Il a vu en vision, lui, le royaume venir, et dès lors, il ne peut plus aspirer qu'à une seule demande, à une seule chose. Viens, Seigneur Jésus, viens. Ben, viens établir véritablement ce que tu viens de me montrer. Nous devrions encore une fois, chaque chrétien devrait être habité de cette même, de ce même esprit et de ce même désir de voir le royaume s'implanter enfin sur terre. Une fois qu'on n'espérera plus, c'est que le royaume sera là et il nous suffira donc de vivre, voilà, et d'en vivre. On peut donc relever sept grands thèmes liés à l'avenir et à l'espérance dans l'Ancien Testament. Et en fait, ces grands thèmes traversent toute la Bible et en particulier l'Ancien Testament, puisqu'on parle de promesses et de prophéties, elles constituent toute la révélation biblique. On peut résumer la révélation biblique à ça, en fait, aux sept thèmes que je vais, en n'étant pas trop long, je vous rassure, vous énumérer. Alors, la première attente, première promesse, c'est bien entendu l'attente d'un libérateur promis. Il y a la promesse d'un libérateur. L'annonce d'un sauveur ou rédempteur devant libérer l'homme des conséquences de la chute, puisque dès la Genèse, on constate en Genèse 3 que l'homme a péché. Et on a besoin d'un libérateur pour nous sauver, nous libérer du péché, de la mort et de notre soumission, bien souvent inconsciente, mais soumission quand même, au diable. Ce thème d'un rédempteur annoncé est omniprésent dans les textes et y prend différentes formes. Par exemple, il est dans le livre de la Genèse celui qui écrase la tête, ou qui écrasera, la tête du serpent. Celui qui doit venir s'insère également dans une histoire et une généalogie. Il ne va pas tomber du ciel comme ça. C'est l'annonce en filigrane de l'incarnation de ce qui est éternel au cœur de l'histoire humaine, marqué par la finitude. Ce sauveur sera en effet de la descendance d'une femme. Il viendra bien au monde par la reproduction naturelle, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Juda et finalement un descendant de la famille du roi David. Vous avez encore une fois toutes les références bibliques dans les notes. Il est également celui qui accomplit pleinement les trois offices reconnus en Israël, à savoir celui de prêtre. Il sera donc prêtre, il devra l'être. Et je cite le psaume 110, verset 4, encore le psaume 110. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, autrement dit, tu seras prêtre pour l'éternité. Il doit aussi revêtir l'office de prophète. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme toi, et c'est lui que vous devrez écouter. Ça, c'est dans le Deutéronome. Et enfin, il assumera la fonction de roi. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse, hein, ce fameux texte qui est repris dans l'évangile de Marc, entre autres, lors de la joyeuse entrée de Jésus à Jérusalem, lors de la dernière Pâque. Sa venue est même littéralement assimilée à celle de Dieu lui-même, puisqu'il est appelé Emmanuel, autrement dit Dieu avec nous. Il est aussi désigné comme le serviteur de l'Éternel, et dans un autre texte d'Ésaïe, identifié à Israël. Il est aussi, faut-il le rappeler alors que nous nous approchons de plus en plus de Pâques, le serviteur souffrant. Et dans le même ordre d'idées, le prophète Zacharie parle d'un berger envoyé par le Seigneur qui sera frappé par les hommes. Rendez compte donc, je n'ai pas fini, hein, mais que tout ça est tissé profondément l'un avec l'autre. Hein. Donc le risque, c'est évidemment de perdre une partie de la couleur de la prophétie. Hein. On peut choper un élément et en perdre un autre. Et alors, si on en perd un autre, on n'a pas le panorama au complet. Il est aussi le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, dont le prophète Daniel a la vision. Et cette appellation, Fils de l'homme, vous le savez, sera reprise par Jésus lui-même pour faire référence à sa double nature, humaine et divine, parce qu'il est en même temps Fils de l'homme, et ce Fils de l'homme dans Daniel 7 vient comme origine le ciel. Donc toutes ces références diverses font état de la même personne et au même événement, Mais vous voyez, les descriptifs sont différents. Hein. La venue en ce monde de Jésus de Nazareth, fils de l'homme et fils de Dieu, sauveur souffrant et mourant pour le péché du monde. Comme pour nous dire qu'il faut apprendre à voir la mosaïque biblique dans toute sa diversité de couleurs, car négliger une couleur ou l'occulter ou passer à côté, c'est prendre le risque de se méprendre, de se tromper. C'est ce qui est arrivé, plus que probablement, à nos amis juifs qui, négligeant les caractéristiques de la première venue du Messie, n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il est venu vers eux. Ils avaient compris une partie de l'annonce, le roi qui devait venir, mais ils n'ont pas perçu l'annonce qui annonçait avant ce moment-là, avant que le roi ne vienne, ils n'ont pas perçu l'annonce du serviteur. Ils n'ont pas discerné, donc pas reconnu le serviteur souffrant, l'agneau qui porte le péché du monde. Ils n'espéraient la venue que du roi annoncé, ils n'ont donc pas compris que la première couronne que devait porter leur Seigneur était une couronne d'épines. Moralité, on ne peut pas faire le tri en Dieu et en ses promesses car on risque de se perdre. Deuxième attente qu'on trouve dans l'Ancien Testament déjà, c'est l'attente du royaume de Dieu. Alors nous savons, au travers des lettres contenues dans le Nouveau Testament, que ce soit de Pierre, de Paul ou d'autres, que l'attente du royaume était très forte au premier siècle dans les cercles chrétiens. Rappelez-vous, hein, dans sa première épître aux Thessaloniciens, Paul dit qu'il faut travailler si l'on veut vivre. Hein, donc que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi dit-il ça? Parce que les chrétiens thessaloniques avaient arrêté de travailler en disant « Jésus va revenir ». Donc, mais ça prouve une chose, bon, c'était un peu présomptueux, mais ça prouve une chose, c'est qu'il y avait une réelle, une intense attente messianique dans l'Église du 1er siècle. Mais cette attente était déjà présente au sein de la communauté juive et à différentes époques de l'histoire d'Israël. Même si au temps de Jésus, nous avons vu à plus d'une reprise que cette attente était surtout liée à une dimension politique. On se tromperait néanmoins si l'on pensait que cette attente n'est le fait que du Nouveau Testament. Elle est aussi omniprésente dans l'Ancien Testament, sous la plume d'Ésaïe entre autres, mais pas seulement. Le livre d'Daniel auquel je viens de faire allusion exprime par exemple l'attente d'un règne que suscitera le Seigneur et qui brisera les royaumes du monde, et par rapport à ces royaumes brisés, son royaume à lui sera éternel. C'est un texte que je prends dans Daniel 2, verset 44. Que je vous invite à potasser cette semaine, le livre de Daniel, puisqu'on va s'en servir la semaine prochaine. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est déjà une annonce du royaume messianique, hein, du royaume de Dieu. Ce royaume, vous lisez le texte cette semaine, vous aurez plus d'informations. Ce royaume est lié à la venue de quelqu'un ressemblant à un fils de l'homme qui vient du ciel. Autrement dit, la venue de ce royaume éternel dépendait de l'incarnation et de l'humiliation du fils de l'homme. Sans la croix, pas de royaume non plus. De là toutes les tentatives du diable, hein, je pense qu'on en avait un peu parlé déjà, durant justement le passage terrestre de notre Seigneur, de faire sortir Jésus de sa route et de sa mission, mourir sur la croix pour que nous puissions recevoir de lui la vie et la promesse du royaume. La tentation était de sortir du sens profond de sa première venue, mourir pour le péché du monde et de n'être plus dès lors qu'un Messie triomphant et par là même empêcher l'application de la justice de Christ, obtenir la croix à ceux et celles qui croiraient et aussi empêcher sa seconde venue en gloire avec l'instauration du royaume promis. C'est tout ça qui est en jeu, au travers des tentations que Jésus a subies toute sa vie durant. Alors, bien entendu, hein, je pense qu'on approche de Pâques encore une fois, et quand on relit les textes de la Passion, et entre autres l'épisode du jardin, on peut se dire qu'une seule chose, hein, ce moment d'angoisse connu par Jésus, c'est qu'on ne pourra jamais comprendre l'abyssale profondeur de cette angoisse, on ne peut pas. Je pense qu'aucun être humain, puisqu'il était aussi pleinement homme, aucun être humain n'a jamais connu une angoisse pareille. Pour suer des grumeaux de sang, il ne faut vraiment pas être bien, quoi. Vraiment. Et je prends ce verset. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On ne peut pas comprendre l'angoisse de Jésus, mais on peut très bien comprendre ce qui est en jeu à ce moment-là. Les babioles, hein, notre salut et l'instauration future du royaume de Dieu sur la terre. Ça va quoi, hein? C'est pas comme si c'était grave. L'Ancien Testament contient aussi une très grande attente, une grande promesse. C'est celle d'une nouvelle alliance. Alors, s'il y en a une nouvelle, c'est qu'il y en a une ancienne. Et vous rappellerez sans doute que l'ancienne alliance désigne spécifiquement l'alliance mosaïque conclue au mont Sinaï, qui consistait en un ensemble détaillé de lois, écrites, données pour un temps afin de limiter les péchés du peuple d'Israël et de servir de gardien ou de pédagogue orientant les gens des autres peuples vers le Christ, Israël en premier. D'ailleurs, ce terme de pédagogue que Paul utilisera en Galates 3, quand il dira que la loi est bonne et qu'elle a servi de pédagogue pour amener à Christ. Alors, je me rappelle pour l'anecdote que ce fameux pédagogue, c'était souvent l'esclave de la maison chez les gens un peu fortunés dans la société grecque ou même romaine, qui amenait le matin les enfants à la classe pour recevoir leurs leçons. Et parfois même, pour les esclaves issus de grandes extractions, c'était parfois même l'esclave lui-même qui donnait cours. Et qui recevait parfois des coups de bâton de son maître quand le fils de la maison n'apprenait pas assez bien. C'était déjà les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui. Quand le gosse fait une mauvaise cote, c'est forcément la faute du prof, et ça n'a rien à voir avec autre chose que ça. Alors nous savons aussi que dans cette ancienne alliance, le rôle de l'esprit, la puissance de l'esprit était beaucoup moins présente et beaucoup moins à l'œuvre. Et ça manifeste en fait que dans l'Ancien Testament, l'esprit, il y a encore quelque chose qui manque quant à sa puissance à venir. En effet, sous l'Ancienne Alliance, seuls quelques rois ont reçu l'esprit. Il y en a eu quelques-uns des rois, en Juda par exemple. Hein. Pas beaucoup dont le texte biblique dit qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. À part les rois, il y a les prophètes qui le reçoivent. En tout cas, le peuple ne le reçoit pas. De plus, Dieu pouvait retirer son esprit à un homme qu'il n'en jugeait plus digne. Ce fut le cas de Saül, hein, vous vous rappelez, le premier roi d'Israël. Et ce fut la crainte, la peur de David suite au péché qu'il commit avec Bathsheba. Si on relit le psaume 51 et on prend le verset 13, David dit à un moment, « Ne me retire pas ton esprit saint. » Parce qu'il sait, c'est bien ce qui est arrivé à Saül, hein, il y était. Il sait que ce qu'il risque, c'est que Dieu lui retire la présence de son esprit. Peut-être là-dessus plus souvent remercier notre Seigneur de ce que nous ne pouvons pas le perdre. On peut l'attrister, on peut s'asseoir dessus, pauvre Esprit Saint, mais Dieu ne nous le reprend pas. Venons-en à la nouvelle alliance. C'est sans doute le prophète Jérémie, je prendrai un texte seulement, c'est sans doute le prophète Jérémie qui exprime le plus clairement l'attente de cette nouvelle alliance. Je prends ce texte en Jérémie 31, versets 31-34. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce texte de Jérémie sera repris en partie par l'auteur de l'Épître aux Hébreux à propos de l'alliance conclue en Jésus-Christ. L'auteur d'Hébreux, il y voit une affirmation forte de la nouvelle alliance que Dieu conclura avec l'homme au travers du sacrifice et de l'œuvre du Christ. Alors, la fin du passage peut être aussi, je pense, objectivement, comme souvent dans les prophéties, on peut y discerner en tout cas l'annonce des temps messianiques et de la restauration d'Israël, puisque le début du texte parle d'Israël et de Juda. Il y a une chose qu'on a fort, fort perdue dans les prophéties au cours des siècles, puisqu'on a parlé de la destruction de Jérusalem et de son temple la semaine passée en l'an 70 par les Romains. On a perdu, en fait, la notion de restauration d'Israël, théologiquement parlant. En tout cas, les chrétiens, les théologiens chrétiens ne sont pas bousculés pendant des siècles pour commencer à se poser la question et les prophéties concernant Israël. Alors qu'il y a une promesse là aussi, d'une attente profonde et une promesse de Dieu quant à la restauration d'Israël. Premier stade de cette restauration en tant que nation, et on peut peut-être passer à côté, hein, puisque c'est pas, on n'en parle pas dans la Bible, à ma connaissance. Quoique par déduction, on peut peut-être. Enfin, certains l'ont fait et certains l'ont même fait intelligemment. Donc le premier stade de cette restauration en tant que nation a eu lieu lors de la création par les Nations Unies d'une terre nationale pour Israël en Palestine. C'était le 29 novembre 1947. À cette époque, la plupart des gens attendaient une sorte de monde nouveau devant surgir des décombres de la guerre, mais personne, mis à part une poignée de juifs, ne pensait ou n'espérait un retour du peuple juif sur la terre de ses ancêtres. Ça, c'est vraiment quasi sorti de terre comme ça. Et là encore, il est clair que sans cette restauration d'un territoire national, les textes relatifs au retour du Seigneur n'auraient pas pu s'accomplir. Le royaume, la grande bataille finale, doit se passer aux alentours de Jérusalem, et c'est clair que dans les textes de l'Apocalypse, on est en Israël et les Juifs sont chez eux. Donc sans cette restauration, bon, plutôt politique qu'autre chose, hein, mais sans cette restauration, les événements prédits, entre autres par l'Apocalypse, ne pourraient pas avoir lieu, et donc par Zacharie et d'autres. Hein. Donc ça ne pourrait pas avoir lieu. Comment en effet un Israël incrédule pourrait-il faire alliance avec l'Antichrist et dans un second temps voir Jérusalem encerclée par toutes les nations de la terre si un État d'Israël laïque et incrédule n'avait pas été créé au préalable, donc un peuple juif non repentant encore par rapport à ses fautes vis-à-vis de Dieu? Il fallait une création d'un Israël non régénéré avant les temps de la fin. Et j'ai dit en introduction sur ce point-là qu'il est très intéressant et certainement surtout malheureux de relever que c'est suite à la création d'un État juif en Palestine en 1947 que de nombreux chrétiens et théologiens ont recommencé à s'intéresser aux prophéties concernant Israël. Parce que jusque-là, à part certains grands penseurs, il faut bien l'admettre, pour une bonne partie du monde chrétien, Israël avait bel et bien définitivement cessé d'exister. Et ne faisait plus partie des plans de Dieu, aidé en cela pendant des siècles par ce qu'on appelait la théologie de remplacement, puisqu'il n'y avait plus d'État juif et qu'Israël avait été détruit, en tout cas symboliquement. Bah, toutes les promesses faites à Israël dans les textes étaient attribuées à l'Église. Voilà. Le nouveau peuple, c'est l'Église. Israël, c'est fini. Ils ont désobéi à Dieu. Ils sont punis. On n'en parle plus. Et toutes les promesses qui devaient encore se réaliser pour Israël, ben, c'était pour l'Église. Voilà. Alors qu'il y a quand même des textes, objectivement, hein, qui sont difficilement applicables à l'Église. Mais vraiment. Comme ce très beau texte de Zacharie, enfin, ce très beau chapitre, pardon, de Zacharie 12, 13 et 14, qui disent en fait sensiblement la même chose, qui font référence au même événement, à savoir la venue du Christ sur la terre. Alors, très intéressant, quand vous lisez Zacharie 12 et Zacharie 14, il parle du même événement, le retour du Christ sur le mont Sion pour sauver Israël. Ok? Eh ben, dans Zacharie 12, on parle de l'Éternel qui vient, et dans Zacharie 12, on parle du Christ qui vient, et dans Zacharie 14, on parle de l'Éternel. Mais on parle du même événement, c'est comique, hein? Pour ceux qui douteraient encore de la divinité du Christ. En passant, hein. Vous pouvez aussi relire ça pendant cette semaine, ça va servir. Il faut un peu travailler, hein, je ne sais pas. Mais... Alors, cinquième promesse, énorme promesse, bien entendu, c'est le déversement de l'Esprit Saint. Alors là, bah, c'était difficile de ne pas citer Joël chapitre 3, verset 1 à 2. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Alors cette prophétie s'est réalisée le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais ce qui est assez extraordinaire avec cette prophétie, l'application de celle-là, de celle-ci, pardon, c'est que depuis ce jour, en tout lieu où le nom du Seigneur est invoqué par un homme pour venir le sauver, cette prophétie est actualisée une personne à la fois. Comme annoncé en Joël 3,5 et repris par Paul en Romains 10,13, qui fait donc la citation de ce texte, et Paul dit, alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Et Paul, en Romains 10, continuera après, mais comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler, etc., etc. Encore aujourd'hui, dans les endroits les plus improbables et les plus reculés de la terre, cette prophétie se réalise. Car le temps de l'Église est l'ère de l'Esprit Saint qui souffle où il veut. L'Ancien Testament parle énormément du jour du Seigneur. Cette formulation devrait vous être familière, vous qui êtes des lecteurs assidus de la Bible. L'expression jour de l'Éternel ou jour du Seigneur est assez fréquente dans la Bible et désigne un moment où Dieu intervient de façon nette dans l'histoire. Alors, faire référence au jour du Seigneur, donc la fin des temps, on parle souvent de la fin des temps, du retour du Christ, en tout cas de l'intervention de Dieu pour installer le royaume de Dieu définitivement en employant ce vocable, le jour du Seigneur, mais ce vocable peut aussi faire référence à d'autres jugements que Dieu a exercés au cours de l'histoire. Par exemple, dans le livre d'Abdias, hein, il n'y a même pas de chapitre, tellement que c'est court. Cette expression annonce le châtiment d'une nation, à savoir Édom, qui s'est joint à Babylone pour faire tomber Jérusalem. En tout cas, Édom s'était réjoui du malheur qui s'abattait sur le peuple de Juda. On parle bien évidemment de la chute de la ville en 586 avant notre ère. C'est le même sens, au jour du Seigneur, que revêt l'expression en Ésaïe 17 pour parler de la destruction de Babylone, ou en Ésaïe 13 qu'on va prendre maintenant. C'est le même terme qui apparaît, et il fait référence à un événement historique, à savoir la destruction de Babylone, même si c'est une prophétie. Hein. Là, on est au 6e, 7e siècle. Hein. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous baissent les bras, tous les hommes se découragent. Ils sont terrifiés, douleur et souffrance s'emparent d'eux. Ils se tordent de douleur comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres stupéfaits. Leur visage est en feu. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. Sympa, hein? Alors, il ne vous aura pas échappé, du moins j'espère, que l'on retrouve la citation du dernier verset de cette prophétie dans la bouche de notre Seigneur dans les textes que nous étudions depuis plusieurs semaines, dans Matthieu 24 et Marc 13. Jésus va utiliser cette image pour parler de la fin des temps, cette image de la lune qui s'obscurcit. Donc, il parle d'un cataclysme cosmique ici. Mais j'y reviendrai. C'est aussi cette expression qui est utilisée pour parler de la manifestation de la colère de Dieu. Quand on parle du jour du Seigneur, c'est le jour annoncé où la colère de Dieu se déversera sur les coupables. Et ce jour du Seigneur peut également désigner, un jour de salut pour les uns, tout n'est pas toujours négatif, hein, et de destruction pour les autres. C'est le cas de cette prophétie de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four, les adjectifs sont souvent similaires, hein, donc ça ne va pas être très drôle en fait. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille, autrement dit, ils brûleront. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable, vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne, frapper le pays de destruction. Ce jour du Seigneur, dans ce cadre-là, c'est ce qu'annonce Malachie, sera donc une libération pour les uns et un jour de jugement pour les autres. Il est à noter, vous l'avez peut-être remarqué, si vous êtes un peu attentif, il est à noter que les derniers versets parlent de la venue de Jean-Baptiste. Donc, on fait allusion à Élie, ici en fait on annonce la venue de Jean-Baptiste, du nouvel Élie. Alors pourquoi est-ce que je peux affirmer ça? Ben, quand vous prenez l'annonce faite à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, dans le temple, quand l'ange lui annonce que sa femme va être enceinte, il cite mot pour mot cette prophétie de Malachie. Ton fils sera un prophète devant l'Éternel. Hein, et il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne frappe, etc. Cet passage-là, c'est textuellement ce que l'ange dit au père de Baptiste, de Jean, pardon, pas de Baptiste, de Jean, le Baptiste. Alors on comprend mieux pourquoi l'ange punit le père de Jean-Baptiste, vous vous rappelez, de Jean le Baptiste, de mutisme. Il va rester muet jusqu'à la naissance de son fils. Pourquoi est-ce que l'ange le prend très mal, l'incrédulité du père? Ben, parce que le père, en tant que prêtre en Israël, devait, à mon avis, connaître cette prophétie de Malachie. Donc, ce que l'ange est en train de lui dire, c'est cette prophétie va se réaliser à travers toi et ta femme, en ton fils. C'est un cadeau incroyable, ça. Hein, il se dit, oh, c'est moi qui vais réaliser cette prophétie. Et lui, il doute, quoi. Et l'ange, oh, ben non. Hein. Ben non. L'usage de ces citations confirme que certains seront réceptifs au ministère de Jean et d'autres non. Certains seront donc sauvés au jour de l'Éternel et d'autres non. Alors si l'on considère que la destruction de Jérusalem et de son temple en 70 est la réalisation partielle de cette prophétie de Malachie, on aura compris le principe de la vision prophétique à court, moyen et long terme, qu'un même texte peut concerner des événements à venir dans 2, 3, 4 ans, des événements dans 100, 200 ans, et puis des événements beaucoup plus lointains. Et une autre chose que nous devons bien comprendre, c'est qu'un jour historique peut être une figure de la fin des temps. Donc un événement qui se passe historiquement peut être déjà une préfiguration d'un autre événement devant venir beaucoup plus tard. Ainsi, j'ai fait référence là tantôt, la destruction de Babylone, l'ennemi d'Israël qui a été prophétisé par Ésaïe et qui s'est déroulé en 539 avant notre ère. Les Mèdes et les Perses se sont emparés de la ville. Eh bien, cette chute de Babylone qu'Ésaïe annonce, puisqu'il sait, Ésaïe, qu'il prophétise que Jérusalem sera détruite par Babylone, mais il annonce aussi que Dieu punira ceux dont il s'est servi pour détruire, en tout cas pour punir son peuple. Mais cette même Babylone et cette même chute de Babylone, prophétisée pardon, par Ésaïe en Ésaïe 13, sera aussi un type ou un symbole de la Babylone de l'humanité ennemie de Dieu dans son ensemble, qui sera donc utilisée dans l'Apocalypse. Hein, Babylone la grande est tombée. C'est cette même symbolique qui est utilisée. Donc à travers cette prophétie d'Ésaïe, on a déjà une annonce de la chute finale du système de choses hostiles à Dieu. C'est ce même principe qui est à l'œuvre au travers de l'usage que fait Jésus de la prophétie d'Ésaïe 13, quand il prend quelque chose qui est déjà arrivé et qu'il l'envoie dans le futur en disant ça va se reproduire. Je prends la chute de Babylone et j'en fais un symbole pour ce qui se passera dans l'avenir lors de mon retour. Donc il emprunte au prophète une vision à venir pour le prophète et concernant l'empire babylonien pour l'appliquer à un événement futur concernant l'ensemble de l'humanité ennemie de Dieu, autrement dit la destruction de la fameuse Babylone la Grande, donc qui est dans l'Apocalypse, est représentative donc de tout ce qui s'oppose à Dieu. Et enfin, une autre promesse non encore réalisée, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je ne sais pas si ça ressemblera à ça. Hein. Alors cette expression évoque une création totalement renouvelée, après le retour victorieux du Messie et sa victoire sur les ennemis de Dieu. Alors, la plus belle évocation de cette nouvelle création, c'est sans nous le doute sur la plume d'Ésaïe que nous la retrouvons. D'Ésaïe 11, j'ai pris trois versets. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et les bétails qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Alors tout ça sera la réalité un jour. Mais avant, de nombreuses choses vont encore se produire, car il ne vous aura pas échappé que si certaines choses promises par Dieu au travers de ses prophètes sont d'ores et déjà accomplies, la venue de notre Sauveur, la nouvelle alliance, la venue de l'Esprit Saint et la venue sous forme de prémices du royaume au travers de l'Église, parce que le royaume est déjà là parce qu'il y a l'Église, ben d'autres prophéties doivent encore s'accomplir. Le jour terrible, le jour de la fin du monde, tel que nous le connaissons, la restauration de la nation d'Israël, la venue du royaume dans toute sa plénitude et la nouvelle création sont encore de l'ordre du non accompli. On l'attend encore. Mais nous pouvons malgré tout y jeter déjà maintenant un coup d'œil, lever une partie du voile. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.